Arrache, tu vois ce que je vois?
Ouais, je le vois. C'est la moto de Canada dans Akira. C'est un skin original placé sur une moto de base.
Non, pas la moto. Oublie la moto.
Bonjour et bienvenue dans La Moto de qui déjà, épisode 2 de cette saison 2, dans laquelle nous parlons du dernier chef-d'œuvre d'Ernest Cline, ce génie incompris ou peut-être un peu trop bien compris, Bridge to Bat City ou Bat City en VF, un livre pour enfants dans lequel Ernest nous livre tout son Cline-isme le plus pur. Nous allons le voir avec les chapitres que nous traitons cette semaine. Bien entendu, je ne suis pas seul dans cette aventure, j'ai avec moi mes deux vaillants chasseux. Alors, sont-ils devenus des chauves-souris mélomanes? Nous allons le découvrir. D'un côté, Camille. Bonjour Camille.
Bonjour. Toujours salée, toujours présente.
Brice, de ton côté, toi, comment vas-tu?
Je deviens la chauve-souris.
Tu ne deviens pas le plaisantin, tu deviens le chauve-souris.
Oui.
Eh bien, oui, effectivement, il y a beaucoup de chauves-souris dans cet épisode. Il y a aussi des hommes avec des casses de chantier, il y a des céréales beaucoup trop sucrées et il y a encore des chanteurs morts, comme nous allons pouvoir le découvrir. Je vous propose, sans plus attendre, de nous lancer avec ce chapitre 6 qui était le premier chapitre que nous avions à lire. Et moi, c'est un chapitre qui m'a littéralement plaqué au sol quand j'ai découvert qu'Ernest, non content de nous parler de chauves-souris, de nous parler d'une grande belle vieille grotte, de nous parler d'une petite gamine qui porte des costumes en patchwork faits par sa mère désormais décédée, il y a une soucoupe volante dans ce putain de chapitre. Une soucoupe volante? Mais pourquoi? Moi, j'ai trouvé que c'était typiquement Ernest qui a décidé d'en coller plein. Genre, allez, mon explication à tout le mystère qui va suivre, c'est une soucoupe volante, ta gueule, c'est magique.
Ouais, j'ai ressenti ça aussi, surtout que le chapitre commence vraiment sur les chapeaux de roue, il y a assez peu d'introduction, c'est elle se réveille, elle regarde par la fenêtre, il y a une soucoupe volante, démerde-toi avec ça.
Globalement, c'est ça, hein, une soucoupe volante composée de deux saladiers métalliques soudés avec un anneau de lumière bleue autour. J'ai bien aimé qu'il nous précise que Opal immédiatement reconnaît une soucoupe volante. Bah oui, en même temps, c'est relativement... ce à quoi on s'attend quand on pense voir une soucoupe volante. Là, on est sur la caricature de soucoupe volante des films des années 50. Enfin, c'est vraiment le stéréotype de la soucoupe volante. Je sais pas ce que t'en as pensé, Brice.
Tout le chapitre est écrit comme ça. Tout le chapitre est vraiment un stéréotype. Donc, le bruit qui vient te réveiller, tu sais pas trop à quel moment tu te retrouves dehors. Enfin, c'est des trucs, en fait, tu peux les imaginer super facilement, tu peux les visualiser mentalement super facilement parce que tu les as vus, mais dans 40 films déjà.
Bah, Opal notamment, l'a vu dans un film avec sa mère. Opal l'a vu dans Le jour où la Terre s'arrêta, un film de 1951 qu'elle a regardé avec sa mère. Évidemment, bien sûr, les enfants de 13 ans adorent les films des années 50.
Mais y a des petits détails, moi, que j'ai trouvé intéressants, parce que sinon, et c'est quelque chose qui va revenir, je pense, dans cet épisode du podcast, les chapitres, en fait, on va peut-être les envoyer assez rapidement, parce qu'il ne s'y passe pas grand-chose, mais il y a des détails. Et je ne sais pas si vous les avez relevés, vous, mais est-ce que, par exemple, vous avez noté, en fait, par exemple, qu'Opal s'est réveillé à 3h33?
Oui.
Oui.
Voilà. Et 3h33, c'est une heure, en fait, bah, comme... ce cliché de la soucoupe volante et tout ça, ça me disait quelque chose, tu vois. Il y avait, du coup, ça m'a poussé à sortir mon ordinateur et à rentrer, en fait, à faire quelques recherches qui ont fini par mener sur différents sites, dont un, par exemple, je prends au hasard, hein, Ésotérique Paris. Voilà. j'ai beaucoup de questions, je ne souhaite pas les réponses. Mais du coup, dans sa section heure miroir, le site nous explique « Si vous tombez à plusieurs reprises sur l'heure miroir 3h33, alors cela signifie que votre ange gardien souhaite vous transmettre un message divin de l'univers pour vous guider, vous protéger et vous apporter son soutien. »
Oh.
Ok, je vous épargne la suite, en fait, qui est une longue, mais très 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 longue description de noms d'anges, d'archanges, de pierres, de cartes de tarot. Voilà, je vais pas non plus aller trop loin pour yucker le yum de quelqu'un, mais tu vois, mais on est vraiment... Le 3h33 n'était pas là par hasard.
Dis, tu as mentionné les pierres. Tu parles de Saint-Pierre ou tu parles d'une pierre, d'un minerai comme une opale, par exemple?
Oh, merde.
Ah.
Eh ben.
Putain, j'ai tué Brice.
Non, je suis né dans mes fiches. Je suis en train de regarder s'il y a des trucs intéressants à dire. Je me suis amusé à donner des petits noms sympas au chapitre de temps en temps.
Ouais.
Celui-ci s'intitule donc La soupe aux choux 2. Voilà.
Bah oui, moi franchement, c'était vraiment un festival de stéréotypes sur les extraterrestres, enfin sur les ovnis. Donc Opal qui a regardé ce film de 51 avec sa mère. Bon, admettons, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend aussi qu'en août 51, il y a eu des ovnis au-dessus de Lubbock. Et ça, c'est très documenté. Alors, je ne sais pas si vous l'avez cherché vous aussi. Le bouquin dit littéralement « Faites vos propres recherches, vous verrez ». Donc, j'ai fait mes propres recherches. J'ai trouvé une page Wikipédia sur les Lubbock Lights. Et il y a bien eu un phénomène en août 51 de lumière, de balais lumineux avec des gens qui disent « C'était des ovnis, c'était réel ». Et ces ovnis qui, d'après Ernest, ont fait un vol stationnaire au-dessus de la maison de Buddy Holly.
Putain, quel enfer. Mais non, j'étais en train de me dire, donc cet encart qui est absolument abject en français, parce que ça termine cet encart par cette question rhétorique, un brin paternaliste, c'est pas trop bizarre? Toutes ces soucoupes volantes au-dessus du plat pays, c'est pas trop bizarre? Et en fait, non, c'est pas bizarre, c'est même pas une anecdote, c'est vraiment un bruit parasite supplémentaire, c'est une interruption inutile. Et je trouve que ces encarts, au final, ne font que drainer le truc vers le bas, c'est absolument insupportable.
Je pense que pour lui, c'est une excuse pour rajouter du trivia. Tu vois, il fait un petit encart et du coup, c'est moins critiquable que quand il juste name drop un truc. Brice, tu voulais ajouter quelque chose?
Ah ouais, ça me fait chier. Ça me fait terriblement chier parce que à la fin de l'épisode précédent, j'étais là, j'étais chaud, j'étais maintenant c'est bon, je connais Klein, je sais ce qu'il va faire. Il va nous parler en fait, donc j'étais sur les cartouches Atari DT qui ont été enterrées, voilà. Non,
ouais.
Il a réussi à parler d'extraterrestres mais à faire un truc complètement différent tout en faisant aussi de l'infodump. C'est fou.
C'est vrai, ouais. Et en plus, on a continué dans les clichés derrière, comme tu l'as dit, à un moment, elle se retrouve téléportée dehors, sous l'ovni, et puis elle a une perte de temps. Mais on a vraiment tous les stéréotypes, tous les clichés. Donc la perte de temps, puisqu'il précise qu'elle retourne dans son lit à 5h et quelques du matin... étant donné qu'il a précisé 3h33 au début, tu vois qu'elle a perdu 2 heures de sa vie. Les extraterrestres ont fait quelque chose à Opal. Mais quoi? Pourquoi elle a été choisie? On ne sait pas.
Oui, c'est ça. Il y a un côté femme élue. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Il y a aucune conclusion. Moi, j'avoue, j'ai très peu de notes sur ce chapitre parce que j'ai le sentiment qu'il ne s'est rien passé. C'est une espèce d'illumination de personnes sous psychotropes. Ça ne m'a pas touché, j'ai pas trop su quoi en dire.
Il y a aussi cette impression, il reste ce doute, ou peut-être qu'elle l'a imaginé, tu vois, mais comme en fin de chapitre, Klein insiste beaucoup trop sur le fait qu'elle-même pense qu'elle a imaginé le truc.
Oui, et puis elle se rend compte qu'elle a de la terre sous les pieds, alors elle se demande si elle a pas fait du somnambulisme.
Voilà.
Ce qui n'est pas impossible aussi, mais non, il y a une telle insistance que oui, évidemment, elle a pas imaginé le truc.
Voilà.
Elle a vraiment été téléportée dehors par une soucoupe volante.
Pour notre bonheur.
Comme vous l'avez dit, il n'y a pas forcément beaucoup plus à dire sur ce chapitre. Et en plus, on a des chapitres beaucoup plus longs qui arrivent, donc je vous propose de passer directement au chapitre 7. Et au chapitre 7, donc Opal sort de son lit, descend de sa chambre et retrouve son oncle Roscoe qui est en train de bouffer ses céréales avec un pyjama Star Wars, car évidemment, oncle Roscoe a un pyjama Star Wars. Et le premier truc que j'ai noté, moi, c'est le mec, il a une exploitation agricole qui franchement bat de l'aile et il a rien d'autre à foutre le matin que bouffer ses céréales avec un pyjama Star Wars. Et ben, je comprends mieux pourquoi il croule sous les dettes, en fait.
Mais moi, je me suis dit, putain, c'est une scène qui est censée être tendre, intimiste, de complicité entre un oncle et sa nièce qui viennent de vivre une forme de traumatisme. Et au final, ça évoque vraiment le portrait d'un homme qui a lâché prise sur la vie, quoi. Il est là avec son truc en pilou-pilou, avec potentiellement Palpatine qui lui moule la couille.
Et, et puis en plus, il en profite pour lui faire goûter des Fruity Pebbles. Alors des Fruity Pebbles, je ne sais pas si vous avez fait des recherches dessus, mais ce sont des céréales qui n'existent pas en Europe parce qu'elles sont bourrées de colorants et bourrées de sucre. Et globalement, Ernest explique que la maman d'Opal ne voulait pas qu'elle en mange. Elle avait bien raison parce que c'est franchement des dégueulasseries. C'est la voie royale vers le diabète et l'obésité. Mais oncle Roscoe, lui, il est au-delà de ça. Et donc, il lui fait goûter et t'as plusieurs lignes pour expliquer que, oh là là, c'est le meilleur truc qu'Opal n'ait jamais bouffé de sa vie. Et moi, j'ai noté, c'est vraiment une excellente idée, Ernest, de faire la promo de céréales gavées de sucre, là, de nos jours. C'est vraiment le meilleur truc à faire à l'heure actuelle.
Ouais, j'ai très peu de notes sur ce chapitre, mais je l'ai juste appelé Miel Pops Infini pour les orphelins.
Il y a de ça. Alors, j'ai pas mal d'autres notes, moi, mais peut-être que Camille, tu as peut-être un truc à dire sur les Fruity Pebbles. Est-ce que ça t'a marqué?
Bah, l'ensemble m'a énormément marqué parce que je trouve que la scène est décrite avec une forme de chaleur humaine. T'as le sentiment que bah ils sont très proches, qu'ils vivent un vrai truc, ils trinquent avec leur bol de céréales. Ouais. T'es censé être dans un instant qui est complice, un moment de partage. Au final, la seule émotion que tu ressens, c'est de l'embarras pour eux. Ils finissent par enchaîner, regarder des dessins animés, ils chantent des génériques ensemble. T'as envie de te dire que leur euphorie te touche, que pendant un instant, tu as ressenti de la douceur, un genre de parenthèse dans ce monde brutal, mais au final, ton cœur reste froid.
Alors, justement, j'ai noté un truc là-dessus. Mon cœur reste d'autant plus froid que on t'explique que Roscoe est en train de regarder Robotech, qu'elle regarde un peu Robotech, elle dit « Oh là là, c'est incroyable, il y a des vaisseaux et des extraterrestres. » Et là, on te dit « Opal change de chaîne. » Donc Roscoe, il est en train de regarder Robotech Pépouze, et la petite nièce, elle se pointe, elle change de chaîne, pour regarder les Muppet Babies. Elle regarde les Muppet Babies alors qu'elle a 13 piges, putain, c'est un truc pour enfants, en bas âge, les Muppet Babies, bordel.
Mais ça, je suis un peu étonné, j'ai l'impression que ça y est pas dans la version française.
Quoi?
Ah, dans la version française, que regarde-t-il?
Bah, je sais pas, ou alors j'ai dissocié à ce moment-là. Je me suis dit que ça valait pas le coup.
Tu l'as peut-être zappé.
J'ai peut-être zappé, je vais regarder un petit peu.
Moi, je me rappelle avoir regardé les Muppet Babies, hein, mais j'avais moins de 10 ans, clairement, j'en avais pas 13. Et surtout, je me serais pas retrouvé à chanter le générique avec mon oncle après que ma mère soit décédée, si tu veux. Franchement.
J'ai complètement menti, c'est effectivement présent. Je pense que j'ai complètement skippé ce truc parce que j'ai lu que derrière, elle chante la chanson du générique, puis Oncle Roscoe fait parfaitement la voix de Kermit la grenouille. Et je crois que c'était beaucoup trop pour mon petit cœur à ce moment-là d'imaginer un adulte en pyjama Star Wars en train d'imiter Kermit la grenouille. Il y a des limites.
Je me permets un fact-checking aussi. Donc Oncle Roscoe en fait prévient Opal et lui dit j'ai déjà cet épisode sur cassette, tu peux changer la chaîne.
Ah, autant pour moi, voilà. Autant pour moi. Alors d'accord, j'ai peut-être zappé ce passage-là. J'étais tellement scandalisé par les Fruity Pebbles. Qu'apprend-on derrière? On apprend que Oncle Roscoe il a un TRS 80. Alors TRS 80, ça va être l'instant nerd à lunettes. Un TS-80, c'est un ordinateur de chez Tandy, qui était une marque qui possédait aussi la chaîne Radio Shack. Radio Shack, c'est une chaîne de magasins d'électronique. Et le TRS-80, c'est un ordinateur qui, aux États-Unis, dans les années 80, avait connu un succès public. Et alors, il s'appelle 80 pas à cause de l'année, il s'appelle 80 parce que le processeur central est un Zilog Z80. Un processeur 8 bits qui équipait aussi la Master System, les bornes d'arcade Pac-Man, la ColecoVision. Et le TRS-80, si ça a connu un succès public, c'est notamment parce que ça coûtait un prix relativement réduit, sauf qu'un prix relativement réduit de l'époque, ça restait quand même assez cher. Hein, faut savoir que ça coûtait $600 à l'époque, et $600 à l'époque avec l'inflation, ça fait $3160 de nos jours. Et je veux dire, quand t'as une ferme, une exploitation agricole qui bat de l'aile, t'as peut-être autre chose à foutre que claquer $3160 dans un ordinateur, même si t'es super fort en programmation et tu codes Farm Master dessus, hein, parce que ta ferme, elle crève quand même, mine de rien, ce serait pas mal d'y penser.
Mais du coup, je sais pas si t'avais l'intention d'enchaîner derrière, mais après, il lâche une tirade qui serait plus que bienvenue dans n'importe quel autre contexte, qui est un pamphlet vegan et antispéciste pour justifier le fait qu'il n'ait plus d'animaux.
Et oui, je l'ai relevé.
Tu l'as relevé. Moi, je me suis dit, ok, alors qu'est-ce que Klein essaie de faire ici? Il y a une vraie volonté, je sais pas, de bien faire, d'intégrer une forme de militantisme qui serait ô combien précieux dans notre vie quotidienne. Mais il déballe tout ça comme une grenade dégoupillée à une gamine de 13 ans qui est traumatisée par le décès récent de sa mère, qui est en train de bouffer son bol de céréales et lui dit vraiment, genre, ah bah ouais, on a découpé Pampan, quoi. C'est d'une violence pure et dure. J'ai trouvé, enfin, je me suis dit vraiment, en termes de militantisme, d'approche pédagogue, il n'y avait rien qu'à aller, quoi.
Bah, c'est l'oncle Roscoe, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est lui.
il est un peu brut de décoffrage, l'oncle Roscoe, il vit à la campagne, tu vois. Moi, j'ai aussi noté que, juste avant cette histoire d'animaux qui n'étaient pas dans la ferme, une petite fin de paragraphe avec un cliffhanger en mousse. En gros, on t'explique que oui, ils vivent loin de tout, et du coup, c'est un peu dur pour elles, mais au moins, il n'y avait pas de tempête de vent ou de poussière qui pourrait t'emporter comme un fétu de paille. Tout du moins, c'est ce qu'elle croyait. Tintintin ! Alors, si la menace, c'est pas une tempête, ton cliff, il est un petit peu éclaté au sol. Mais surtout, ça m'a rappelé que à la fin du chapitre précédent, donc la fin du chapitre 6, Opal, elle vient de faire une rencontre du deuxième type. Elle trouve le courage de se lever pour vivre sa première journée à la ferme. Et le chapitre, il se termine en se disant que cette journée se trouve encore plus bizarre que la nuit précédente. Donc on te tease une journée encore plus bizarre qu'une nuit où tu viens de rencontrer une soucoupe volante qui t'a téléporté dehors. je veux dire, donc plus bizarre qu'une rencontre du deuxième type. Si c'est pas une rencontre du troisième type ou plus, je serais déçu, sachant que le sixième type, c'est une relation sexuelle avec des extraterrestres. Elle est quand même mineure. J'espère qu'Ernest n'ira pas aussi loin. Donc voilà, j'ai noté ça, les cliffhangers en mousse d'Ernest, et il en abuse même au sein d'un même chapitre, en fait. D'un paragraphe à l'autre, tu passes à la ligne suivante et ton cliffhanger est désamorcé, quoi. C'est tout ce que j'ai pour le chapitre 7.
Moi
Est-ce
aussi.
Que vous avez plus de choses, Brice? C'est
oui,
tout,
non,
ou
c'est tout. J'ai juste relevé que il en profitait pour faire ce qu'il n'avait pas fait dans les chapitres précédents, c'est-à-dire mentionner des propriétés intellectuelles en gras et en italique dès qu'il le pouvait.
Tu penses au programme Elisa de synthèse vocale, par exemple?
Voilà, oh, mais même dès le premier drop de Star Wars, dès la première ligne, en fait.
C'est vrai.
Là, en fait, il dit, OK, j'ai pas pu le faire pendant le chapitre précédent parce que j'ai aucune référence extraterrestre. Là, j'y vais.
On va passer au chapitre 8. Le chapitre 8, c'est un gros morceau. Un gros morceau déjà parce qu'il fait 20 pages et aussi parce que, bon, ce qui s'y passe est assez... assez maboulissime, on va le dire, on va employer les mots. Déjà, je note qu'on est le soir et il s'est toujours rien passé de plus bizarre que la téléportation par un ovni. Donc, tic-toc, Ernest, hein, l'horloge tourne, dépêche-toi de nous mettre du bizarre. Et j'ai noté que c'est le retour de la Big Ol' Beautiful Cave, deux références en à peine deux pages. Roscoe invite Opal à aller rendre visite aux chauves-souris car les chauves-souris ne lui font plus peur du tout. On rappelle qu'il y a 4 chapitres, on expliquait qu'elle était terrifiée par les chauves-souris, mais il a suffi que Roscoe lui fasse un petit laïus comme quoi en fait non, ça va, elles sont gentilles, et en fait elle a plus peur.
Oui, c'est ça, et puis au-delà de ça, elle explique qu'elle se sent en connexion avec elles, qu'elle maîtrise leur langage, qu'elle est en symbiose avec ces créatures. C'est vraiment le syndrome de Saint-François d'Assise, quoi. Je me souviens que je faisais pareil avec certains poneys du centre équestre, que j'étais convaincue qu'ils me parlaient à travers leur souffle tiède. C'est ce truc où tu te dis que la vérité, c'est que Caramel, c'était pas vraiment un poney difficile, mais un animal au bout de sa vie, éreinté, la crinière lourde de Marguerite tressée par des petites filles persuadées d'être différente comme Opal. Elle maîtrise tous les codes des chauves-souris.
Et j'ai noté surtout qu'elle se sent, tu l'as dit, en connexion psychique profonde avec toutes ces petites créatures volantes. Mais surtout, en anglais, c'est « for some reason », pour une raison quelconque.
Oh là là.
Et ça m'a tué qu'il indique ça. Pour une raison quelconque, Opal sentit soudain une connexion psychique intense avec les chauves-souris. Je sais pas comment ils ont traduit ça en français, mais le for some reason en anglais, moi, il m'a flingué. C'est genre vraiment, j'en ai rien à foutre, c'est comme ça, ta gueule, c'est magique, puissance 2.
C'est pareil en français.
Ouais. C'est vraiment incroyable. Et donc, du coup, j'ai écrit, ah bah, ok. Elle peut penser ce que les chauves-souris peuvent penser, ressentir ce que les chauves-souris ressentent, et c'est comme ça, tu te tais.
c'est incroyable. J'ai à peu près mis la même chose, effectivement.
Et attends, en français, c'est « for some reason », c'est traduit de manière extrêmement impétueuse, c'est « curieusement ». Curieusement,
eh ben,
Opal
ben alors,
sentait une...
Eh ben alors, il comprend la chauve-souris. curieusement, c'est merveilleux. Mais donc ensuite, oui, il rentre à la maison, tu l'as dit, Brice, parce que Opal a faim.
Voilà.
Et heureusement, c'est Taco Night. Et c'est aussi l'heure de la meilleure émission de l'histoire de la télévision.
Fort Boyard. ah non.
Austin City Limits. Alors, ça m'a fait penser que on avait une petite liste de tout un tas de trucs qui sont les meilleurs trucs de tous les temps, qui nous ont été comme ça énoncés par Ernest. Donc on a Austin City Limits qui est la meilleure émission de tous les temps. On a Austin, qui est sa ville préférée de tous les temps. On a Ray Charles, qui est le meilleur pianiste de tous les temps. C'est une accumulation de trucs qui sont les best of all time. Pourquoi faire ? À quoi est-ce que ça sert ?
Ouais, j'ai aussi noté ça. Je trouve qu'il parle d'une émission de musique avec la... Je sais pas, l'obsession, la ferveur d'un mec qui vient de voir Dieu en 4K, il prêche, il est en pleine crise mystique. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il parle de quelque chose qu'il apprécie, il est comme habité, quoi.
C'est ça. Si y a un truc qu'Ernest aime, c'est le meilleur truc de tous les temps. C'est quelque chose qu'on avait déjà relevé dans Ready Player One, de toute façon, cette tendance à l'emphase où, de toute façon, si lui, il aime un truc, c'est que c'est forcément le meilleur truc ever. Pour Austin City Limits, c'est donc une émission de télévision qui passait de la musique en live. Le festival Austin City Limits, donc, qui existe toujours de nos jours. L'émission de télé, elle, par contre, il me semble qu'elle s'est arrêtée. Mais là, pour le coup, j'ai pas fait de recherche poussée, donc je ne saurais le confirmer, mais il me semble qu'elle s'est arrêtée. Vas-y, Brice.
Alors, j'ai particulièrement détesté ce chapitre.
Ah
pas seulement parce que effectivement, il est deux fois plus long que les deux chapitres précédents réunis.
Ouais.
Il fait quelque chose comme, enfin j'imagine, 20 pages sur le format bouquin. Mais aussi parce que j'ai été pris d'une obsession, d'une soif de recherche, encore plus profonde, en fait, encore plus intense que celle de cette histoire de 3h33.
Ouais.
Je me suis mis en tête qu'Ernest Cline disait de la merde. Ce qui arrive de temps en temps, ce qui arrive souvent.
Curieux, ouais.
Donc ça a commencé par une simple recherche, effectivement, Austin City Limits. Et ça a fini sur une chasse de 20 minutes. Est-ce que Ray Charles a vraiment participé à cette émission ? La réponse est oui. À deux reprises, d'ailleurs. Le 23 octobre 79 et le 20 janvier 1984.
Attends, c'est le meilleur pianiste de tous les temps. Heureusement qu'il a participé à la meilleure émission de tous les temps.
Tout à fait. Le problème, en fait, que j'ai eu immédiatement après ça, c'est que ces deux dates, en fait, sont respectivement un mardi et un vendredi. Oncle Roscoe, il dit... C'est le programme du samedi soir. Donc j'ai poursuivi mes recherches. Enfin, je suis allé super loin. Vraiment, mais pour rien. Juste parce que j'étais vraiment persuadé que Cline, il disait de la merde.
Ah oui, tu es tombé dans un terrier de lapin, comme on dit en anglais.
Voilà, tout ça pour que finalement, en fait, non, c'est juste que, effectivement, c'était l'émission du 20 janvier 1984, mais qui a été diffusée à la télé le 21 janvier 1984, ce qui nous donne donc une date définitive, en fait, pour les événements qui sont en train de se produire.
Oh, wow.
Ah, c'est donc en 84. C'est vrai qu'on se demandait en quelle année exactement tout était en train de se produire. Très bien, donc on est en janvier 84, donc à cette époque.
Ah ouais, je suis allé sur la grille des programmes, je suis allé partout pour vérifier, ok, est-ce que c'était bien passé à ce moment-là, tout ça,
C'est une véritable enquête.
L'essentiel de mes notes sur ce chapitre, c'est ça.
Mais du coup, en fait, il y a toute une espèce de chronologie qui se déroule sous nos yeux parce qu'on te dit, on te donne une liste d'invités et notamment Léo Kottke, qui malgré sa guitare à 12 cordes, n'est pas le meilleur guitariste de tous les temps. J'en déduis donc que c'est une sale petite merde. Parce que sinon, Ernest l'aurait précisé, hein. Mais c'est le moment où ça y est, les chauves-souris mélomanes qui kiffe la guitare à 12 cordes de Léo Kottke, puisque Opal remarque qu'il y a des chauves-souris accrochées à la corde à linge qui écoutent la musique avec eux. Ça y est.
Avant ça.
Ah, j'ai raté quelque chose, vas-y.
Non, t'as pas raté quelque chose. C'est toujours le même truc qui m'énerve à propos d'Ernest Cline, et je pense que ça va ressortir. J'en ai marre, en fait, que ces descriptions... En fait, toutes ces descriptions, t'as l'impression qu'il essaie de mentir à un interrogatoire de police, et tu vois qu'il gratte la surface, mais il va jamais très loin. C'est, oui, voilà, on a regardé la meilleure émission du monde, et il y avait Ray Charles, et puis il y avait cet autre mec, dont j'ai déjà oublié le nom, et c'est tout, il donne pas de description, ce qui se passait pendant l'émission, rien du tout.
Il écrit pour lui, quoi.
Il écrit pour lui, et là, on a un autre problème, c'est que c'est un bouquin pour enfants. Et alors déjà, un gamin de... Je sais pas, j'imagine que t'as 13 ans quand tu lis ça. J'espère pas. Bah déjà, je pense pas que tu saches vraiment qui est Ray Charles. Mais l'autre,
Léo Kottke. Oh.
Ouais. Encore moins, j'imagine,
mais,
tu vois.
Mais tu veux aussi parler du film de 1951 dont il était référence au chapitre d'avant.
Oui, voilà. C'est... Et
j'en ai une autre du même genre, toujours dans le même chapitre, c'est que déjà, Ernest, il est obligé toujours d'exagérer. Il t'explique que les chauves-souris n'avaient jamais entendu de musique avant. Jamais. Nulle part. À aucun moment, il y a une chauve-souris qui a volé à côté d'une voiture, qui aurait eu son autoradio
si,
un peu fort.
Plus.
À aucun moment, il y a une autre chauve-souris. Mais il écrit, hein, les chauves-souris n'ont jamais entendu de musique avant. Et donc, pour elle, là, ce qui se passe, c'est extraordinaire. Et t'as un petit needle drop de Got My Mojo Working par Muddy Waters, une chanson de 1957. Ça va parler à quel enfant ? Même un enfant qui aurait 13 ans en 84, une chanson 1957, ça lui parle pas, c'est non, pas c'est possible. Moi je trouve ça incroyable que Opal, elle écoute Buddy Holly, elle connaît Muddy Waters, mais jamais, à aucun moment, elle va te parler de Michael Jackson.
Oui, mais Opal est différente. Combien de fois il va falloir qu'on te le répète ?
Je pense qu'Opal a des goûts musicaux en patchwork, comme ses costumes, ce qui la rend vraiment, vraiment étrange. Mais c'est fou et j'en suis arrivé à faire un pronostic, c'est que maintenant qu'on est passé sur les chauves-souris, on ne reparlera plus jamais de l'OVNI. C'est mon pronostic. L'OVNI c'est terminé. C'était le tagol c'est magique pour expliquer qu'Opal parle aux chauves-souris. On en a plus besoin.
Si, expédié. Moi je pense que potentiellement on va en reparler parce que tu sais, en français c'est curieusement, je sais plus ce que c'est en anglais, c'est comme pour préparer à cet immense cliffhanger qui va être en fait, elle a réussi à connecter avec les chauves-souris grâce à la soucoupe volante. Et là, on va s'arracher les cheveux à faire « Mais non, mais c'est pas vrai, putain, si j'avais su, on va devenir fou, on va devenir fou. »
Ah, moi, je pense que c'est implicite, hein, que en gros, c'est, enfin, que globalement, c'est entendu, c'est à cause de ça, quoi. Alors peut-être.
Ah, je vais aller plus loin.
Ouais.
Je pense que c'est sa mère.
Ah, toi, tu penses par rapport au.
En fait, l'image de la soucoupe volante et tout ça, en fait, c'est le lien qu'elle a avec sa mère. Et
avec
du coup,
les 3h33
c'est
et
sa
tout.
Mère qui. Voilà, c'est sa mère qui lui a techniquement donné ce pouvoir dans la mort, quoi. Ça va être éclaté, hein, mais...
Est-ce que c'est pas Buddy Holly dans la soucoupe volante qui lui a donné ce pouvoir ?
C'est aussi une possibilité.
Parce qu'on rappelle, hein, la soucoupe volante qui avait fait du vol stationnaire au-dessus de la maison de Buddy Holly pendant les Lubbock Lights en 1951.
Et les lunettes d'Opal.
Donc on se demande. Et ces lunettes, voilà.
J'ai des questions.
Oui.
J'ai des questions. Donc, c'est... On est face à des chauves-souris qui sont sur une corde à linge,
c'est
et
ça.
Qui regardent la télé et qui entendent ce qui se passe. Et moi, j'ai une question pour Camille.
Le crew de la corde à linge.
Bah voilà, justement, est-ce qu'en français, c'est, du coup, c'est le gang de la corde à linge ? C'est comment ?
Vous êtes assis, là. C'est la clique. Oui. La clique de la corde à linge.
De la corde à linge.
Parfait.
En anglais, c'est quoi ?
Je vais te dire le mot exact, parce que je l'ai traduit dans mes notes. Je te le trouve tout de suite.
Je vais pas m'aventurer à le prononcer, moi.
le clothesline crew. Donc c'est littéralement le crew, la corde à linge, parce que on dit un crew quand on est des jeunes de la street, mais sinon effectivement la clique c'est pas mal comme traduction. Ouais. Beaucoup de respect pour la personne qui a traduit.
Ça n'en demeure pas exceptionnel. Hein. C'est quand même un peu à chier, surtout que Roscoe débarque de là comme une illumination divine. Encore une fois, il est euphorique, il dit je leur ai trouvé un surnom. La clique de la corde à linge et tout le monde est ravi, les chauves-souris sont ravis, j'étais atterré.
Écoute, c'est du niveau du Rumbler et de Rambling, c'est du niveau du Level Lens, c'est voilà, c'est tout ce niveau-là où de tous ces gens qui se pensent super intelligents parce qu'ils ont trouvé, ils ont donné un surnom à quelque chose, quoi. Tout comme ils se pensent super intelligents quand Roscoe met la télé à l'envers et on t'explique que littéralement les chauves-souris perdent leur caca. Et Opal comprend que, en fait, les chauves-souris, elles kiffent parce que, du coup, les musiciens avaient l'air de pendre la tête en bas aussi. Et là, je me suis dit, bah non. Du coup, pour les chauves-souris, elles voient les musiciens à l'endroit. Donc, c'est l'inverse. Donc, qu'est-ce que tu nous racontes, Ernest? Ton référentiel est pété. Ah, c'est, bref. Donc, du coup, on vous explique que Opal devient copine avec des chauves-souris. On leur joint de la musique super fort aux fenêtres en mettant la télé à l'envers et en taillant le bout de gras avec finalement, hein, parce que mine de rien, elles discutent, elles se comprennent, tout va bien. Roscoe, lui, est complètement... se rend pas compte qu'Opal comprend les chauves-souris, donc Opal sait exactement ce dont les chauves-souris a besoin. Et j'aime bien l'idée que les chauves-souris connaissent le concept de week-end. Parce qu'en fait, Opal leur dit de venir le samedi pour juste aller à la semaine prochaine. Donc, elles connaissent le concept de semaine, de week-end. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Et au final, on t'apprend que, bon, dans la clique, il y a seulement 12 chauves-souris dont on te fait un listing et dont on te donne les noms. J'ai rien noté de particulier parce que j'ai trouvé ça tellement inintéressant, en fait, mais peut-être que vous avez des notes sur les noms donnés à ces fameuses chauves-souris et la description de leur personnalité, en plus.
Ah, c'est le moment où j'ai commencé à lâcher la rampe.
Moi, j'ai des choses très factuelles. Il n'y a aucune vanne. De toute manière, au bout d'un moment, je ne peux pas broder sur du vent. Hein.
Non, mais c'est sérieux. On ne peut plus rigoler avec ça.
Non, mais moi, je pense que c'est un sujet sérieux. Elle donne au final des noms des rues d'Austin à ces chauves-souris et elle les classe par duo. Donc, chaque duo est fait par genre musical. Je ne vais pas toutes les faire, hein, mais il y a Pearl et Sabine qui représentent la musique blues, Trinity et Colorado qui sont plutôt country, Rainier et Red dans le rock, etc., etc. Mais elle a ses deux préférés qui sont Lavaca et Brazos. Brazos qui est un peu foufou et Lavaca qui est plutôt l'esprit cartésien et un peu pragmatique du duo.
C'est ça, les deux, elles sont mises ensemble alors qu'elles n'ont rien en commun. C'est juste parce qu'ils ne savaient pas quoi en foutre, je pense, Ernest. C'est tout un descriptif de chauve-souris dont, honnêtement, on se fout un peu. Alors, peut-être que derrière, la personnalité de ces chauves-souris va jouer. Et d'ailleurs, oui, la personnalité de Brazo va être mise en avant dans un chapitre derrière qui est... Ouf, je sais pas si j'ai hâte de parler de ce chapitre-là, mais c'est une description de chauves-souris, bref, triée, comme tu l'as dit, par goût musical et avec des noms de rue d'Austin. Et Austin, pourquoi en fait? Pourquoi t'as choisi Austin si ce n'est que c'est sa ville préférée du monde entier? Puisque Austin, ils n'y vivent pas encore. Hein. Ils sont encore dans la campagne, dans une ville pas très loin d'Austin, mais pas exactement là. Elle aurait pu choisir n'importe quoi d'autre, mais non, elle a choisi des rues d'Austin parce que Austin, c'est la ville où habite Ernest. Et mine de rien, ça, le hasard fait bien les choses. On t'explique donc que les choses vont de mieux en mieux, qu'on s'éclate avec les chauves-souris, qu'on écoute de la musique, mais jusqu'à ce que les choses aillent de pire en pire. Et ça, c'est un pur cliffhanger Kleinesque. C'est comme ça qu'il termine son chapitre. Et pour moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que des chauves-souris mélomanes à qui tu as l'impression de parler et que tu as l'impression de comprendre, c'est plus ou moins bizarre qu'être téléporteur de ta chambre par un ovni et de perdre 2 heures de ta vie? Moi, je pense que non. Donc, je pense qu'on nous a menti sur ce cliffhanger.
Ouais, je suis assez d'accord.
On est d'accord que c'est bizarre, hein, mais c'est pas plus bizarre. Je pense que sur l'échelle de la bizarrerie, la télépathie avec les chauves-souris, c'est moins.
Je suis d'accord.
Brice?
Ah oui, comme je te dis, moi, c'est le moment où j'ai disparu. En fait, je lisais et je crois, là, je suis en train de feuilleter et j'ai vraiment disparu au moment, en fait, où, juste après le nommage des chauves-souris, une fois que Lavaca et Brazos sont nommés, je suis en train de regarder, là, il y a 3-4 paragraphes qui est vraiment... où tu comprends qu'elles ne parlent pas juste avec les chauves-souris. C'est que les chauves-souris, en fait, elles peuvent lui raconter leur vie.
Ah oui, oui.
Genre, oui, en fait, Lavaca et Brazos, en fait, bah, on ne s'entend pas bien parce que y a l'une des chauves-souris qui passe son temps dans la grotte à apprendre des trucs aux autres, alors pendant que l'autre a à faire des courses ou je ne sais pas trop quoi. Et là, j'ai fait « Oh, merde !»
Mais c'est ça, ce n'est pas juste de l'observation, c'est vraiment conversationnel, en fait.
Ouais, ouais.
Genre, oui, alors lui, je l'aime pas trop parce qu'il est comme ça. Et voilà, c'est exactement ça. T'imagines qu'en fait, elle se raconte des potins hein, entre chauve-souris et Opal.
Ça devient un peu la psy de ces deux chauves-souris en particulier. Et j'ai vraiment... Enfin, je dis, j'ai vraiment pas compris. Non, parce que le chapitre suivant est encore pire.
Alors, bah, tu nous dis que le
non seulement il est encore pire, mais il confirme en fait la peur que j'ai eue dans celui-ci, en fait.
Oui. Après, tu nous dis que tu as lâché prise dans le chapitre 8. J'espère que tu es de retour dans le chapitre 9, parce que le chapitre 9, c'est là où on t'introduit la menace. Les méchants, McKernel Limestone, qui sont décrits comme globalement des hommes pas identifiés, sans visage, avec des cases de chantier, mais qui sont très très méchants, parce qu'ils font sauter la grande vieille belle grotte. Et là, c'est le moment où je me suis dit, putain, on est enfin débarrassé de la grande vieille belle grotte. Ça y est, c'est terminé, il n'y sera plus jamais allusion. Malheureusement, non. J'avais tort. Mais donc, on t'apprend que 1 million de chauves-souris sont maintenant sans domicile fixe.
Oui, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est la manière dont les ouvriers hein, qui font leur taf, malheureusement, on est dans le capitalisme, donc il n'y a pas trop le choix, mais les ouvriers sont tout le temps comparés à Opal et Roscoe. Donc, les travailleurs, c'est un peu des pions sans âme, alors que Opal et Roscoe, c'est des êtres lumineux, altruistes et merveilleux. Et on se retrouve un peu... le cul entre deux chaises, comme ça, dans une vision hyper manichéenne, où en fait, il y a vraiment les gens qui détruisent, qui ne sont animés que par des choses qui sont néfastes et mauvaises, et Opal et Roscoe, ces espèces d'entités divines qui sont au-dessus de tout ça.
Alors
ouais, Moi, j'ai noté, c'est littéralement une description de nazi avec un casque de chantier. Brice.
Il faut pas oublier de préciser aussi que tout ce chapitre, l'intégralité de ce chapitre, est fait du POV d'une chauve-souris.
Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai. C'est...
Voilà. D'où, alors, bon, je l'ai appelé POV destruction de bas de cave. Et ce chapitre m'a vraiment gêné, puisque déjà, c'était la confirmation des doutes du chapitre précédent, c'est vraiment que oui, les chauves-souris, entre guillemets, parlent. Donc, il y a vraiment, là, il n'y a plus aucun doute sur la question, elles sont techniquement humanisées et tout ça. Mais non seulement ça, l'intégralité du chapitre est écrite de manière insupportable, où on est presque à la limite de ces personnes sur les réseaux sociaux qui écrivent pour leurs animaux, pour leurs chats et tout ça, où on est vraiment entre deux chaises, où par exemple, tu as la chauve-souris qui essaye d'expliquer la destruction de sa maison, et au lieu de dire « oui, voilà, bon, bah, ils sont venus avec leur pelleteuse et leur dynamite, ils ont tout fait exploser, c'est la fin ». Non, non, c'est vraiment toujours des espèces de phrases « ils ont fait exploser ça avec des machins qu'on appelle de la dynamite, et puis il y a ça ». C'est très, très gênant. J'arrive pas à comprendre ce qu'il a essayé de faire, en fait.
Bah déjà, y a un problème fondamental, c'est comment est-ce qu'une putain de chauve-souris peut savoir ce que c'est qu'une pelleteuse ou que de la dynamite, en fait. Moi, j'ai un souci avec ça, c'est que le POV de la chauve-souris, c'est déjà ridicule de base, mais si en plus ta chauve-souris, elle parle comme un humain et qu'elle sait, qu'elle connaît tous ces concepts, enfin, je veux dire, on parle d'une putain de chauve-souris, faudrait se mettre dans la peau d'un enfant de 3 ans qui t'expliquerait globalement ce qu'il vient de voir sans connaître les termes, mais la chauve-souris, non, elle est OP, y a pas de souci, elle a fait l'école de la vie, elle peut t'expliquer ce que c'est une pelleteuse ou, enfin c'est aberrant en fait.
C'est précisément ça qui me dérange, c'est que Klein il a pas su faire un choix et il fait les deux. Il fait les deux, il fait vraiment les deux. Au lieu de vraiment, c'est au début il commence sur des descriptions un peu bah genre oui je sais pas ce que c'est et après il accole le nom. C'est vraiment un style particulier, je sais pas si vous avez vu ça.
J'ai aussi noté que Brazos, la chauve-souris, reconnaît une chanson et en connaît même le titre. Et là, je me suis demandé comment la chauve-souris connaît le titre de cette chanson, puisqu'il s'agit de You're Gonna Miss Me des 13 Floor Elevators, une chanson de 1966. Laquelle je me suis évidemment renseigné parce que j'ai jamais putain d'entendu parler de cette chanson ni de ce groupe. Cette chanson, c'est leur single qui a eu le plus de succès. Il a été 55e au Billboard 100, autant dire qu'elle est complètement anecdotique et que personne dans les USA, sorti d'Austin, ne la connaît. C'est un groupe local, hein, c'est un groupe local qui n'a jamais percé à l'échelle nationale. Mais Ernest, il s'est dit que dans son livre pour enfants, ça serait bien de la placer, donc il l'a placée là. Et c'est une chanson que Brazos connaissait et aimait bien, mais que maintenant, elle est gâchée à tout jamais, puisqu'il a entendu un des ouvriers l'écouter pendant qu'il démolissait la grande belle vieille grotte. Il y a une grosse tempête qui s'annonce, et c'est donc là que le cliffhanger du précédent chapitre est payant. Car oui, même dans leur pays idyllique, au milieu des fermes et des TRS-80, il y a des tempêtes, manifestement. La météo peut être destructrice partout. Et les chauves-souris ne savent pas où aller puisque bah elles ont perdu leur grande vieille belle grotte. Donc elles décident d'aller demander de l'aide à Opal et Roscoe. Logique.
Mais c'est ça moi qui m'a agacé. Elles ne cherchent pas une autre grotte. Elles s'adaptent pas du tout à leur environnement. Elles ne font rien de ce que ferait un animal en détresse. Mais par contre elles vont voir Opal et Roscoe qui sont différents et bien gentils.
Alors je suis désolé de te contredire, Camille, mais si, elles ont cherché d'autres grottes, mais les autres grottes étaient toutes pleines. Tu vois, c'est limite, il y avait d'autres chauves-souris. C'est limite, il y avait un panneau « Désolé, on est complet » à l'entrée des autres grottes, tu vois. Et elles essayent même de s'accrocher juste à un arbre, mais malheureusement, ça ne leur offre pas la protection nécessaire. Donc, elles essayent bien d'aller dans d'autres grottes, mais elles essaient pas autre chose, tu vois. Ça leur irait pas à l'idée d'aller dans une grange vide. Parce que c'est quand même trouvable. Non, ils sont obligés d'aller à la grange d'Opal et Roscoe.
C'est ça.
Du coup, c'est dans ce chapitre 10, l'ultime chapitre de cette lecture, que l'on va découvrir où nos chauves-souris vont aller. Déjà, Opal fait un rêve prémonitoire avec encore une mention de la Big Ol' Beautiful Cave. J'ai écrit en gros « Let it die », il faut arrêter maintenant Ernest, c'est terminé, on n'en peut plus de la Big Ol' Beautiful Cave, c'est bon, elle a sauté, les nazis en caisse de chantier l'ont fait exploser. On découvre, c'est pas tellement une surprise, mais on t'explique que Roscoe ne branle en rien pour maintenir sa ferme ou gagner sa vie, bah il croule sous les dettes, alors là, quelle surprise. Hein, rien qu'en vendant son TRS-80, il pourrait tenir un petit peu, mais bon, a priori, c'est pas, ça a pas l'air d'être à l'ordre du jour. Et puis, en plus, c'est la ferme familiale, donc moi, j'arrive pas trop à comprendre ce que c'est ses frais. À un moment, on t'explique qu'il doit rembourser un emprunt, mais quel emprunt ? Enfin, on t'explique que c'est la ferme qu'ils ont depuis au moins deux générations. S'ils ont pas fini de rembourser leur emprunt, je sais pas ce qui branlait les années d'avant, quoi. Je veux bien comprendre que Roscoe soit incapable de gérer une ferme, mais ceux d'avant, a priori, ils étaient capables. Enfin, je veux dire, a priori, elle devrait être remboursée depuis longtemps, donc non, c'est juste qu'il avait besoin d'un prétexte pour sortir ce stéréotype de le pauvre fermier qui croule sous les dettes. Moi, je comprends pas bien ce que c'est ces frais, en fait. Hein. Bon, l'emprunt est une explication que Ernest sort de son chapeau, mais voilà, donc c'est histoire de rajouter un petit peu de perte, parce que on t'explique que Opal avait perdu sa maison à Lubbock. Et là aussi, je me suis posé la question, mais attendez, à qui était cette maison ? Est-ce que la maison était une location ? Mais dans ce cas-là, elle a zéro héritage. Enfin, aussi, il faut dire que les costumes en patchwork, ça devait pas rapporter grand-chose, donc j'imagine que la mère de Opal ne devait pas gagner gros. Mais voilà, il y a tout un tas de questions que tout d'un coup j'ai eues sur « mais elle a zéro patrimoine au final, Opal, au final, mais vraiment, et t'as l'impression que Roscoe non plus. » Donc en fait, il se retrouve comme ça, pauvre, parce que l'histoire l'a voulu, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis surtout, moi, ce qui m'a un peu surprise, c'est la manière dont cette histoire de saisie de maison se fait catapulter extrêmement vite. Parce que Opal dit « oui, oui, ok, mais les chauves-souris, elles vont mal ». Donc, pas de toit, c'est pas grave. Pas d'argent, c'est pas grave. Mais les chauves-souris, ça devient une question d'urgence. Du coup, elle envoie son oncle sous la pluie battante en plein orage pour aller vérifier.
J'étais trop content, j'ai cru qu'il allait mourir.
Oh non, pas oncle Roscoe. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. C'est qu'au début, t'as Opal qui se rend un peu compte, tu vois, du ridicule du pitch de base de ce bouquin. Quand elle hésite à expliquer à oncle Roscoe parce que lui dire... Un ovni m'a donné le pouvoir de communiquer télépathiquement avec des chauves-souris et ressentir leurs émotions. Moi, la gamine me sort ça, je lui dis « Ok, t'es gentil, je sais bien que tu viens de perdre ta mère, mais là, il va peut-être falloir en parler un petit, quoi. » Non, non, lui, il l'accepte. Il l'accepte, Roscoe, c'est bon, effectivement, oui, c'est plausible. Pas de problème, ma nièce. Et maintenant, je vais partir sous une pluie battante, sous un orage dangereux pour aller voir si les chauves-souris vont bien, parce que c'est ça qui compte.
Alors, moi, je me suis mis un petit trick. Je me suis dit, comment est-ce que je peux rendre la lecture de ce 10e chapitre infini un peu plus digeste ? J'ai imaginé qu'il était toujours en pyjama Star Wars sous la flotte. Et ça rend l'ensemble beaucoup plus appréciable.
Effectivement, si on s'imagine qu'il est parti en pyjama Star Wars, et si on s'imagine qu'il est en pyjama Star Wars pendant tout le reste du bouquin, je pense qu'il y a moyen de vachement plus l'apprécier. Il va falloir qu'on trouve des tricks comme ça, histoire de se rendre la lecture moins pénible, et le pyjama Star Wars me semble être un bon moyen. Et donc, ils hébergent des milliers de chauves-souris, ils tendent des cordes à linge partout... dans la grange, même dans leur grenier, même dans leur maison, enfin il y a des chauves-souris partout.
Et dans leur salon, ouais.
Voilà, dans leur salon.
Bah alors moi franchement, j'ai déjà mis les pieds dans un caveau rempli de chauves-souris. Bon, c'était des renards volants, des roussettes, des trucs beaucoup plus gros que des pipistrelles, hein. je sais pas trop quelle taille elles ont celles-ci, mais malgré l'affection que j'ai pour ces bestioles, ça pue sa mère. Le guano de chauves-souris, c'est une attaque chimique, quoi, c'est pas une petite odeur boisée, c'est vraiment un nuage d'ammoniac qui trempe dans les sinus. Et donc là, je sais pas combien elles sont, ça doit être insoutenable.
Vu qu'elle peut parler avec elles, peut-être qu'Opal leur demande d'aller chier dehors. On sait jamais. Toi, tu n'avais pas ce pouvoir télépathique. Toi, le guano, du coup, tu vois, ça tombait directement dessus.
Tu insinues que je suis comme tout le monde.
Non, tu es spécial.
J'apprécie assez peu.
Comme nous tous.
Merci. Merci, je suis différente.
Tu es différente. Moi, j'ai aussi noté qu'ils hébergent des milliers de chauves-souris. Ils ont pas trop peur de la rage, ça va, quoi. Faut quand même savoir que les cas de rage aux USA, T'as évidemment les chiens en tête de file, mais derrière, c'est les chauves-souris, la principale source de morsures qui donne la rage.
C'était expédié dans un des chapitres précédents, ça.
Dans un des chapitres précédents, voilà. Roscoe expliquait que non, ça va, y a pas de problème. Voilà.
Et du coup, non, c'est bon. La rage n'existe pas dans cet univers. C'est réglé. Il y a des aliens, mais il y a pas la rage.
Mais il y a pas d'aliens qui ont la rage, en tout cas. Ou peut-être que ça va être un twist dans un chapitre suivant. Donc du coup, Roscoe explique la situation financière merdique à sa nièce, qui avait apparemment besoin qu'on lui explique, parce que les dizaines de panneaux et les lettres qui disaient facture en retard, ça lui suffisait pas. Et il décide, comme un seul homme, alors que ils sont en train d'héberger des milliers de chauves-souris, hein, d'aller déménager à Austin. Et alors là, j'ai noté, mais Ernest, comment est-ce possible qu'ils aillent déménager dans la ville la plus peuplée du Texas, qui est aussi la capitale de l'État, alors qu'ils ont déjà pas les moyens de survivre dans une pauvre ferme perdue dans le trou du cul du Texas, où ils ont trop de frais? Enfin, je veux dire, ils vont vivre comment là-bas? Parce que le coût de la vie là-bas, ça doit être autre chose.
Faire travailler les chauves-souris.
Faire travailler les chauves-souris.
Non, mais en vrai, c'est assez plausible. Je me demande s'ils vont pas monter une affaire avec les chauves-souris ou le million de chauves-souris se relaie pour, je sais pas, faire des cordes à linge ou.
De la livraison de courrier.
après tout le truc, tout le hiatus sur l'exploitation animale, ça serait quand même hilarant.
Ah oui, mais il les tue pas pour les manger après, c'est la différence.
C'est vrai.
Parce que là, ce qui était vraiment problématique, c'était tu fais ami-ami avec Pampan, et puis au final, tu le tues, tu le manges, et ensuite tu fais grandir ses enfants. C'était ça qui s'est expliqué littéralement comme ça.
C'est légitime, mais j'attends de voir comment est-ce qu'il va rebondir derrière ce truc-là.
Il y a autre chose qui m'a perturbé dans ce chapitre.
Ouais.
Donc, tout au long du chapitre, Roscoe explique effectivement sa situation financière dégueulasse à Opal. Mais j'ai eu un gros doute, j'ai cru qu'on avait eu une ellipse temporelle ou autre chose comme ça, parce que Opal s'exprime et comprend comme une adulte. Mais vraiment, elle comprend des situations financières mieux que moi.
Ouais, je pense aussi que les chauves-souris comprennent les situations financières maintenant, au point où on en est. Donc, c'est pas ça qui l'arrête, Ernest, si tu veux mon avis. Quand tu vois que la chauve-souris, elle comprend ce que c'est une semaine, une pelleteuse ou des trucs comme ça, je pense qu'Opal, elle peut comprendre une banqueroute. Il y a pas de souci. Donc, ils décident de déménager dès qu'ils ont fini leur valise. Donc, en gros, ils laissent tout en plan, ils font leur valise. Le reste de leurs affaires, ils les donnent à des offres de charité. Genre, vous êtes pauvres, pourquoi vous les donnez, vos trucs? Vendez-les, c'est pas possible! Il y a vraiment un gros problème de cohérence, c'est complètement aberrant. Et puis en plus, j'imagine que le Rambler, ça ramble, mais c'est pas un camion de déménagement, quoi. Donc en gros, ils abandonnent vraiment une grosse partie de leurs affaires. Moi, j'étais curieux, j'étais inquiet pour le TRS-80, va-t-il le garder, va-t-il pas? Il explique qu'il envisage peut-être de vendre Farm Master. Alors j'imagine qu'il embarque son TRS-80 avec lui, mais qu'est-ce qui peut mal se passer, quoi? Ils prennent toutes les mauvaises décisions. Enfin, je veux dire, oh là là, on est pauvre alors qu'on vit dans le fin fond de la Creuse. Déménageons à Paris. Voilà, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment la pire décision possible. Puis surtout, déménageons à Paris. Le million de chauves-souris qui vit chez nous va nous suivre. Tout va bien se passer. Donc voilà, c'est là-dessus que le chapitre se termine, et honnêtement, on a atteint un niveau de débilité qui est assez élevé. Moi, honnêtement, je me souviens pas dans Ready Player 2 d'un moment où l'histoire est autant partie en latte, en fait. Ça n'avait aucun sens, mais là, c'est vraiment, on est sur de multiples niveaux d'incohérence totale où c'est du ta gueule, c'est magique, démultiplié dans tous les sens, quoi. On te demande d'avaler tellement de trucs que je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir à ce rythme-là.
Bah, surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'au final, dans les personnes qui nous sont présentées ici, ou du moins un être vivant doué de conscience, c'est pas Roscoe le plus responsable, mais potentiellement Bravos ou la Casa, là, je sais plus, sa copine un peu cartésienne. Donc je me demande si c'est pas elles qui vont prendre toutes les responsabilités du reste des aventures, quoi.
Putain, si c'est les chauves-souris qui deviennent les narratrices, si on suit leur POV tout le reste du bouquin, je sais pas si je vais tenir. Je pense que comme Brice, je vais avoir besoin de lâcher prise à un moment.
Tu veux pas de description de gros engins jaunes appelés des bulldozers
ou d'hommes très méchants avec des casques jaunes qu'on appelle des casques de chantier?
Mais je suis en train de me poser la question et j'ai pas fait la démarche de fouiller très loin, mais en termes de couleurs, les chauves-souris, elles peuvent voir le jaune?
Ah, je ne sais pas si les chauves-souris peuvent voir les couleurs. Dans le même temps, je ne sais pas si c'est moi qui invente ou si c'est vraiment explicitement écrit que les casques sont jaunes, mais si, je crois que c'est écrit d'ailleurs.
Alors en tout cas, le gros engin jaune, moi je te le confirme, c'est écrit.
D'accord, donc les chauves-souris voient la couleur. Écoute, j'espère pour Ernest, parce que franchement, quel embarras si jamais il s'était trompé là-dessus, que les chauves-souris peuvent voir la couleur. Pour notre prochain épisode, on a décidé... moi je
d'arrêter
pensais à la
podcast.
Base...
C'est fini. Bye.
Je pensais à la base faire ça 5 chapitres par 5 chapitres, mais il s'avère que là, les 5 chapitres, en fait, étaient beaucoup plus longs que je ne l'avais anticipé. On s'est quand même enquillé un gros paquet de pages, parce que mine de rien, le chapitre 8 en faisait 20, et ce chapitre 10 en faisait 18. Alors, quand j'ai regardé pour aller jusqu'au chapitre 15, c'était quasiment une centaine de pages, et je me suis dit qu'on allait claquer. Donc du coup, on va aller que jusqu'au chapitre 14 inclus. Donc chapitre 11, 12, 13, 14, et ce qui m'inquiète, moi je me pose la question, c'est que étant donné qu'il déménage à Austin, est-ce la fin de Mucker No Limestone? Va-t-on en réentendre parler? Parce que mine de rien, vu qu'il déménage et qu'il lâche sa ferme, bah du coup il n'y a plus de raison pour Mucker No Limestone d'être dans l'histoire, donc va-t-on assister à une disparition totale de ce qui était jusqu'ici les principaux antagonistes du bouquin? Va-t-on revoir l'OVNI? Je me pose tout un tas de questions, je me demande vraiment de quoi va parler le livre, en fait. Partant de là, étant donné que les principaux éléments qui étaient potentiellement des antagonistes ou des éléments un peu mystérieux sont complètement dégagés de l'histoire, là, honnêtement, je sais pas du tout où on va, en fait. Je ne sais pas où Ernest va nous emmener. Et j'ai un peu peur, hein, quand je ne sais pas où Ernest m'emmène.
Non, c'est
ouais,
vrai,
mais
c'est
on va probablement avoir de nouveaux personnages. Ça va être cool. de nouveaux clichés, de nouveaux...
Des gens qui ne veulent pas comprendre que ils veulent loger 1 million de chauves-souris dans leur T2 au milieu d'Austin. La propriétaire de l'appartement va péter un boulon et la propriétaire sera décrite comme une vilaine femme dénuée d'âme, contrairement à Opal et Roscoe qui, eux, sont des êtres de lumière.
Qui leur louent une fortune, un appartement entre l'usine d'épuration et l'autoroute.
C'est ça. C'est ça.
Et finalement, on se retrouve un peu dans le même cliché où on était au début de Ready Player One avec les stacks et le pauvre Wade qui était bloqué là avec sa belle-mère acariâtre et son beau-père qui était limite un agresseur sexuel. C'était à peu près la même chose, quoi. Enfin, honnêtement, hein, je refuse de croire que dans Austin, ils vont magiquement trouver une maison assez grande pour héberger toutes les chauves-souris. Donc, s'ils sont pas dans un appartement pourlingue, vraiment en bordure d'autoroute, il y a... Après, c'est un livre pour enfants. On peut pas lui demander d'être cohérent tout le temps. Mais là, on a dépassé les limites, là. Franchement, c'est du n'importe quoi absolu. Et dire qu'à la base, les chauves-souris mélomanes, on était d'accord pour dire, je suspends mon incrédulité et j'accepte ça. Mais là, on est allé beaucoup trop loin, enfin.
Elles parlent!
elles ont des concepts humains avancés. Par contre, c'était la première fois de leur vie qu'elles entendent de la musique. Donc, on peut pas tout avoir. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ces 5 chapitres qui étaient vraiment douloureux? Je vais pas vous cacher que la lecture m'a pris un temps fou parce que il fallait que je prenne des pauses récurrentes pour faire autre chose, en fait. Sinon, j'allais péter un câble.
Moi, j'ai envie que ça se finisse. Je veux en finir même.
Malheureusement, on est même pas à la moitié du bouquin, Camille.
Non, mais Camille a raison. Là, je suis dans un état qui ressemble un peu à l'état dans lequel j'étais à la fin de la moto de qui déjà.
Je
vous cache pas que oui, j'ai lu les chapitres ce matin, en fait.
Ouais, là, j'ai attendu le dernier moment, je les ai lus hier, moi, j'avais un peu de mal. Après, on a repoussé d'une semaine, et heureusement qu'on a repoussé d'une semaine, parce qu'on avait, on avait des problèmes personnels à gérer, mais il faut que je m'astreigne à essayer de lire un chapitre, les lire un par un soir, tu vois, sur le chemin... plus régulièrement parce que les 5 d'un coup c'était vraiment trop violent.
Ouais, je suis d'accord, c'est indigeste, c'est vraiment lourd sur l'estomac, on devrait peut-être découper un peu ça.
Étant donné que c'est un livre pour enfants, tu vois, t'essaies de faire un chapitre par soir, et puis tu prends tes notes comme ça au fil de l'eau. Mais dans le même temps, le problème, c'est ces chapitres qui sont inconsistants parce que un coup t'en as un qui fait 5 pages, un coup t'en as un qui en fait 20, quoi.
Mais non seulement ça, mais la manière aussi dont il a distribué ses idées dans ses chapitres, où là il y a absolument tout dans le chapitre 8 et tout le reste en fait, ouais, il y a rien. Il y a rien du tout dans les autres chapitres.
C'est ça. Hein. T'as le chapitre 8 où on te balance absolument tout et les autres c'est du gras, c'est du superflu, c'est vraiment du vent. C'est Roscoe et Opal qui chantent le générique de Muppet Babies, quoi. C'est vraiment, ça n'a aucun intérêt, quoi. Ça n'apporte rien. Et c'est à se demander si cette histoire de ferme qu'ils ont perdue au final apporte quelque chose, parce que moi j'en suis à me demander si au final, à la fin du bouquin, s'ils avaient été emménagés à Austin direct, sans toutes ces histoires de ferme et de banqueroute, est-ce que ça aurait pas été pareil? Et puis il aurait suffi qu'ils soient, ils vivent à Austin mais en bordure de la ville, et puis ils font 5 bornes et ils trouvent une Big Old Beautiful Cave avec des chauves-souris, et ça ne change rien. Bon, j'en sais rien, hein, si ça se trouve McKerno Limestone va de nouveau avoir un rôle super important, et puis à la fin il retourne vivre à la ferme avec les chauves-souris parce qu'ils ont sauvé la ferme, mais honnêtement, parti comme c'est, et étant donné notre expérience passée des œuvres de Klein, je serais même pas surpris que... ces 8 chapitres-là n'aient servi strictement à rien.
On oublie autre chose, c'est les gros sabots de Klein, et maintenant j'ai très peur de quelque chose, c'est qu'on oublie en fait tout simplement Bat City. Est-ce qu'à un moment il va faire intervenir une ville nommée Bat City, qui sera la solution à tous ces problèmes?
Bridge to Bat City. Ce serait, il faudrait un pont pour y aller, donc ce serait une île, une cité sur une île.
Et c'est complètement possible. Après tout ce qu'on s'est bouffé là pendant 5 chapitres, je suis prêt à y croire.
Ouais, une cité magique qui serait réservée aux chauves-souris.
Ça m'étonne pas du tout, mais j'ai l'impression qu'on s'est spoilé absolument tout le reste du bouquin, donc je propose qu'on arrête le podcast là.
Écoutez, on savait avant de s'y lancer que ça allait être un chemin de croix, hein, on l'a déjà vécu. On était un peu plus enthousiaste au début parce qu'on avait un peu oublié quelle souffrance c'était, je pense. Mais maintenant qu'on est dedans, on a franchi le point de non-retour. Il faut qu'on emménage à Austin.
Non, mais plus jamais. Tu débarques sur Discord pour nous dire on continue un podcast. Plus jamais, je te réponds pas.
Ah ouais, s'il y a Ready Player Zero quand même.
C'est l'exception. C'est vraiment le seul.
Et le film.
Et le film Ready Player Two qui, selon les rumeurs, serait potentiellement de nouveau... de nouveau en production, parce que a priori après le bide du livre, ils auraient décidé de peut-être mettre le holà sur Ready Player 2. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a toujours pas eu de film Armada. Hein. Moi, je m'inquiète vraiment beaucoup pour le film Armada. J'avais tellement envie de voir un remake de The Last Starfighter que franchement. Bref, nous digressons. Je pense que ce n'est pas nécessaire. On va en rester là pour cet épisode. Donc pour le prochain épisode, comme on l'a dit, on va essayer de faire un peu plus court cette fois, donc on va juste aller jusqu'à l'épisode 14, c'est déjà largement suffisant, enfin, c'est déjà beaucoup, donc épisode 14 inclus, chapitre 14 inclus, tu as raison Camille, merci pour la correction.
Excuse-moi.
Non, tu as complètement raison, et on se retrouve donc dans 15 jours, et puis d'ici là, n'oubliez pas, les chauves-souris sont nos amis, il faut les aimer aussi.
Salut.
Ouais, je le vois.
C'est un moto de Canada dans Akira. C'est un skin original placé sur une moto de base.
Non, pas la moto. Oublie la moto.
Everything all right in here?
Yes, Nanny. Mommy. Une production Air Peluche.